La parole à Claire Le Sacheur, qui est, elle, docteure en sciences du langage et chercheuse associée au préfixe à Rennes, et qui va nous présenter une communication intitulée « Genre, québécicité et langage dans l'expérience de la médiatisation de rappeuses à Montréal ».
Ok, bon, désolée pour ce contretemps. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma communication intitulée « Genre, rapports sociaux de race et langage dans l'expérience de la médiatisation de rappeuses à Montréal » sur une période qui couvre la fin des années 2000 et le début des années 2010. Donc, cette communication s'adosse à une partie des analyses que j'ai menées au cours de ma thèse de doctorat qui proposait d'interroger l'activité rap à Montréal de la fin des années 2000, donc début des années 2010, du point de vue du genre, pensé ici comme un rapport de pouvoir imbriqué à d'autres rapports sociaux, ainsi qu'à des vecteurs de différenciation, comme peut l'être le langage. Plus particulièrement, cette recherche sur l'activité rap à Montréal, elle s'est focalisée sur les trajectoires, les expériences de plusieurs rappeuses. Dans ce cadre, les analyses proposées au cours de cette communication se basent sur un corpus de 19 entretiens semi-directifs réalisés avec des rappeuses ou des collectifs de rappeuses à Montréal en 2011. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser tout particulièrement sur un sujet qui était récurrent dans les prises de parole des rappeuses, la question de la visibilité dans l'espace public et dans ce cadre, l'expérience de la médiatisation ou de la non-médiatisation au niveau des organes médiatiques d'envergure au Québec ou des scènes d'envergure. À l'aune de leurs propos sur le sujet, on va envisager combien et de quelle manière la question de la visibilité dans l'espace public peut être à la fois traversée par des rapports sociaux de sexe et de race, et combien le langage, entendu comme un agent actif de la production, de la reproduction et de la transformation de la différenciation sociale, participe de ces logiques structurelles qui ont un impact concret sur les parcours individuels des artistes. Alors, au milieu des années 2000, les chercheurs Mela Sarkar, Bronwyn Lone et Liz Winner ont mis à jour que l'espace québécois est traversé par une représentation commune de l'appartenance qui se situe, je cite, à l'intersection du vu et de l'entendu, selon lesquelles les Québécoises et Québécois seraient blancs et parleraient une variété de français perçus comme québécoises, je pense celle qui vous vient à peu près tous en tête, là, si je dis parler québécois. Et donc, il s'agit là du concept de québécicité qui transmet une appréhension racialisée et linguistique de l'appartenance québécoise, donc ce qui demanderait peut-être à être retravaillé pour être étendu au regard du fait que les marques construites par le rapport social vont sans doute au-delà du vu et de l'entendu. Et donc, concept de québécicité qui apparaît de fait restrictif au regard de l'histoire et des données démographiques du Québec, traversé par un bilinguisme franco-anglo, terre d'immigration depuis des décennies et terre de communautés autochtones depuis bien plus longtemps encore. En tout état de cause, les discours des participantes à la recherche quant à leur expérience de la médiatisation soulignent combien les logiques des médias d'envergure québécois sont infusées de cette notion donc de québécicité. En effet, plusieurs artistes d'expression anglophone se définissent comme outsiders dans l'espace artistique médiatique québécois. Donc on a notamment Émilie qui me dit « Toi, tu parles avec des rappeuses québécoises ». Donc aussi, on voit qu'en tant que québécoise d'expression anglophone, elle s'exclut de la définition de québécoise puisqu'elle parle des rappeuses francophones en les appelant les rappeuses québécoises, qui ont un single avec leur vidéo jouée à Musique Plus, même à compétition, c'est celle qui joue en ce moment, Rihanna, Lady Gaga, etc. Moi, c'est contre eux qu'on me met « Me understand », protection de la langue française, et je peux comprendre complètement, mais tu vois, j'ai toujours tombé dans... Je n'ai pas compris ce qu'elle me disait. Donc, je peux vraiment dire « I really know what it is to be an outsider ». Et puis, j'ai Nelly qui me dit « La communauté francophone est plus suivie, car ils sont donc la majorité, et les anglos peuvent se sentir exclus ». Et puis, c'est marrant, quand il s'agit de choses comme la question de l'expression artistique, musicale, eh bien, il y a toujours de la ségrégation en termes de langage, donc des propos assez forts, qui s'insèrent notamment dans un espace radiophonique québécois qui est soumis à des quotas en faveur des productions musicales d'expression francophone. Donc, cette idée que la langue est intriquée à la nation se retrouve dans la législation elle-même. Face à cela, il y a aussi certaines artistes d'expression francophone qui indiquent également s'être vu refuser la diffusion au sein des médias dominants, cette fois-ci au regard de leur français plurilingue, pourtant présenté comme typiquement local. Donc, questionnée sur son statut de groupe rap francophone qui caractérisait la formation au sein duquel elle a assez longtemps fait partie, Joséphine me répond « ça aurait dû jouer en notre faveur ». Mais je pense que dans la même idée dont on parle depuis tantôt, ce français-là des institutions qui représentent ceux qui se sentent menacés, qui ont dit « c'est super bon ce que vous faites, mais ce n'est pas ce que le Québécois moyen veut entendre, parce que ça ne lui ressemble pas ». Et pourtant, je trouve ça vraiment bizarre et louche, parce que c'est typiquement québécois, c'est né ici. La façon dont on parle, dont on s'exprime, tu vas la trouver nulle part ailleurs. Tu vas aller dans le Canada anglais, c'est plus ça, dans la francophonie, c'est pour ça. Et pourtant, ici, chez nous, on nous dit que non, on ne sait pas d'où ça vient, mais on ne se sent pas représenté par ça. Et du coup, c'est l'excuse type qu'on nous a donnée pour ne pas nous passer en radio. Alors, outre le fait de se cristalliser sur des particularités linguistiques, des productions artistiques, ces logiques médiatiques impliquent également, mais de manière beaucoup plus sous-entendue, la question des rapports sociaux de sexe. En fait, des fois, parler de langage, ça permet de contourner la question des rapports sociaux de race. Donc, Joséphine poursuit en me disant « Le fait de chanter en français, dans notre situation du hip-hop, ou que ce soit la situation du fils d'immigrant, ça ne nous a pas vraiment aidés. » Et Joséphine est noire et d'origine haïtienne. Et ce fait est corroboré aussi par les productions discursives de Nadine, qui est elle aussi née au Québec. J'ai des obstacles juste en étant une femme noire anglophone ici. Et si je dirais partout que j'étais rappeur comme si je portais un t-shirt, je pense que ça serait encore plus compliqué. Donc plusieurs artistes rencontrés nous ont témoigné d'une forme d'éviction des champs de la médiatisation qui serait liée en fait avec leur non-conformité avec les critères de la québécicité dans un mouvement en fait où le rap est souvent appréhendé, enfin semble appréhendé en tant qu'expression musicale de la non-québécicité, laquelle est associée simultanément à la marge et à la déviance. Et en effet, durant les années 2000, début des années 2010, les propositions rap des artistes, elles s'insèrent dans un paysage médiatique qui a construit deux interprétations du rap, lesquelles engagent une mise en visibilité différenciée des artistes, à la fois en termes quantitatifs que qualitatifs. En effet, Marie-Nathalie Leblanc, Alexandrine Boudreau-Fournier et Gabriela Gerayan ont souligné que lorsque les médias dominants parlaient de rap, c'était à quelques exceptions près venant confirmer la règle, en tant qu'expression des personnes non blanches et à travers le prisme, je cite, de la violence, des gangs de la rue, de la drogue ou de l'illégalité. Et ceci donc dans un mouvement qui met en articulation les stéréotypes associés au rap et ceux construits à propos des personnes non blanches. Parallèlement à ça, on relève aussi un récit médiatique sur ce qu'on pourrait nommer comme un rap de défense de l'identité québécoise dans un océan nord-américain anglophone, dont le groupe Loco Locas en a la figure incontestée, et c'est le groupe de rap qui a été le plus médiatisé dans les années 2000, qui a le vendu le plus d'albums, etc., enfin en tout cas beaucoup, et qui est posé, tout comme il se définit lui-même, finalement hors du rap, hors du hip-hop, dans son ensemble, et donc en même temps hors de ces interprétations qui en sont faites. Et dans ce cadre, il est intéressant de porter le regard sur le parcours de deux rappeuses qui sont en concordance avec ce critère de québécicité, et qui se retrouvent qui ont vraiment beaucoup de mal à se définir en tant que rappeuse ou comme se faisant partie de la scène hip-hop. Donc, par exemple, Mathilde qui me disait « je ne me considère pas comme une rappeuse », ou Dalia qui me dit « je vois les limites que ce terme, ce terme porte pour moi ». Et il s'avère que donc, Mathilde et Dalia, ces deux rappeuses, elles ont bénéficié d'une attention médiatique remarquable de rapidité et d'envergure. Bon, ça reste quand même, enfin, on parle de rap, du coup, ça reste quand même assez, enfin, c'est pas non plus foufou, mais en tout cas, à côté des autres, elles ont vraiment, eu un suivi médiatique remarquable. Elles mentionnent des articles dans le quotidien Le Devoir, qui est comme l'équivalent du Monde ici, des interviews sur la chaîne TV Musique Plus, ou la programmation au Festival des Francophonies, en tout début de carrière, et c'est vraiment une scène très, très importante au Québec. Je vous cite par exemple la dernière citation de Mathilde, qui, quand je lui demande son parcours, elle me dit « j'ai fait des gros spectacles, puis j'ai appris à écrire des textes ». Donc on voit en fait que c'est comme si elle avait été programmée au Franco avant d'être vraiment rappeuse. Donc on peut, regarde ça, raisonnablement avancer que le positionnement dans la sphère rap et par rapport à celui aussi du concept de québécicité, jouent ensemble ces deux positionnements vers une forme de régulation de la visibilité des artistes rap à Montréal, ce qui implique les carrières des rappeuses. Alors, outre ce concept de québécicité, les rapports sociaux de sexe infusent aussi les modalités de médiatisation et d'interprétation des projets artistiques dans l'espace public. Les rappeuses soulignent massivement qu'à Montréal, l'activité rap est surtout investie par des hommes. Elle est ainsi désignée comme un milieu de gars, un monde d'hommes ou encore de sausage party. Selon plusieurs prises de parole, cette situation, elle provoquerait entre autres une forme d'attention mise en lumière accentuée par rapport au rappeur. On relève les segments « capter l'attention », »,« se démarquer », »,« on me reconnaît beaucoup plus », ou encore le terme « curiosité », voire « curiosité médiatique », et donc « curiosité » à l'égard de ce qui serait peu commun dans le rap et peu commun de la part d'une femme. Néanmoins, la plupart des rappeuses évoquent cette situation comme ambivalente. Reposant sur un mode de différenciation par rapport aux rappeurs, la rareté finalement des rappeuses engagerait également des contraintes et des injonctions. En effet, si elles relèvent bénéficier d'un intérêt plus marqué que les rappeurs parce qu'elles font exception, les rappeuses expriment aussi que cette attention qui émerge du fait qu'elles sont des femmes, pensées ici comme groupe formalisé par des rapports sociaux, peut aussi freiner leur légitimité artistique dans l'espace public. Plusieurs artistes rencontrés relèvent clairement une appréhension différenciée qui, parce qu'elles sont associées au groupe des femmes, peut se cristalliser sur leur apparence physique, sur leur corps, bref, les assigner à une interprétation séculaire des femmes comme étant avant tout des êtres de séduction, des êtres sexualisés, etc. Et ce fait est répété à travers la mention, enfin, est visible à travers la mention répétée dans les propos des artistes d'une dialectique entre être écouté et être regardé dans les discours. Avec, c'est vraiment, genre, je veux qu'on aille au-delà d'être regardé, je veux aussi qu'on m'écoute. Je sais pas, juste, je suis belle, puis non, j'ai quelque chose à donner. Je veux pas juste qu'on me regarde, je veux aussi qu'on m'écoute. Et une membre du collectif Perceptible Reflection me dit également ça. Je préfère être écoutée avant d'être regardée. Ainsi que l'avait soulevé Mario Buscato dans le cadre de ses travaux sur les femmes du jazz, cette dialectique montre qu'une appréhension différenciée des hommes et des femmes se joue dans le champ musical, laquelle passe par une perception différenciée des corps, qui sanctionne aussi les manières dont les femmes peuvent être jugées légitimes dans leur art musical, être valorisées comme des musiciens à part entière. Ainsi, valorisation professionnelle et stéréotypes féminins jouent en sens contraire. Ce constat opéré par les rappeuses peut alors engendrer des ajustements et des stratégies de leur part afin de mettre en œuvre des modalités de visibilité satisfaisantes dans le cadre de la gestion de leur carrière. Alors, en effet, plusieurs d'entre elles indiquent devoir trouver un équilibre entre une image en concordance avec le genre, qui implique qu'elle se démarque, et à travers lesquelles se jouent aussi les modalités de leur médiatisation, et puis un équilibre qui n'irait pas non plus vers une image trop sexualisée qui les éloignerait de la reconnaissance en tant qu'artiste, d'après leurs propos. Je suis consciente qu'il faut ajouter une petite touche féminine. C'est juste normal, indique par exemple Lucy, qui a justement été confrontée plus jeune à un refus d'être diffusée à la télé au regard de son manque de féminité. La première fois que j'ai voulu passer mon clip vidéo à la télé, la personne qui était en charge de le diffuser disait que je n'étais pas assez féminine, j'avais juste 14 ans. Lucy précise que cependant, que être féminine, pour elle, ce n'est pas juste regarder mon corps, comme peut le faire Beyoncé pour elle, qui est son modèle. Ce n'est pas juste regarder mon corps, je veux que les gens sortent d'ici, puis ils soient comme, être une vraie artiste. Ainsi, au regard des enjeux que ça implique, les pratiques liées à la question de l'apparence physique dans l'espace public peut alors procéder d'un dilemme, le mot est prononcé par une des rappeuses que j'ai rencontrées, selon lequel il s'agit de jouer avec les contours d'une féminité normalisée, ce qui est d'ailleurs à relever dans le cadre d'un genre musical qui est souvent défini et commenté comme étant le lieu d'expression, de réappropriation des féminités, des masculinités qui sont aux antipodes de la norme. Alors, être écouté au-delà d'être regardé, nous disent donc les rappeuses. Cependant, ce qui relève de l'interprétation des textes dans l'espace public n'est pas non plus exempt de ces phénomènes restrictifs et hiérarchisants. Tournons-nous donc de nouveau vers Dalia et Mathilde, les deux artistes qui ont en commun d'être en concordance avec les critères de la québécicité, qui indiquent avoir accès à des espaces de diffusion et de médiatisation peu évoqués par les autres participantes à la recherche. Il s'avère que ces deux artistes proposent un projet artistique de textes traitant de sexualité et ou qui mobilisent un vocabulaire à dénotation ou connotation sexuelle. Pour Dalia, le choix de s'impliquer dans le rap procède en partie du fait qu'elle souhaitait donner une réponse aux rappeurs sur le sujet de la sexualité. Je trouvais quand même que TTC puis Omnicron, c'était bien drôle ce qu'ils faisaient, puis j'aimais ça, mais c'était juste qu'il n'y avait pas la réponse des filles. Mathilde, quant à elle, décrit son propre rap comme spontané et sans filtre. Pour elle, c'est comme quand on a bu et que du coup on n'a pas de filtre, et bien elle, son rap, c'est ça. Donc pour Mathilde, il s'agit vraiment de parler de la vie de tous les jours sans faire attention à ce que ses propos soient dans le fond ou dans la forme en adéquation avec les normes de bienséance en place. Et pourtant, à côté de ça, quand on lit, qu'on visionne ou qu'on écoute des interviews, des critiques, bref, des commentaires médiatisés sur ses productions musicales, l'insistance faite, enfin, il y a vraiment une insistante portée sur son franc-parler, sur le vocabulaire qui est employé par Mathilde. Je prends par exemple les extraits d'une interview télévisée qu'il y a eu au cours des années 2000, où il y avait, le commentateur disait « Si vous aimez les filles au franc-parler, oreilles sensibles s'abstenir », des chansons qui sont assez hard, impressionnamment dures pour l'oreille, donc pour commenter le projet artistique de Mathilde. Ainsi, les textes de Mathilde sont avant tout envisagés à l'aune de son appartenance au groupe de femmes, et ce, selon des modalités qui lui rappellent simultanément combien elle n'est pas en accord avec les caractéristiques qui y sont associées. De nombreux travaux qui croisent, si on croise les gens et langage, ont effectivement mis au jour combien les propos des hommes et des femmes mis en discours ne sont pas entendus de la même façon et qu'on attend des femmes qu'elles se comportent mieux que les hommes, et notamment d'un point de vue langagier interactionnel. La confrontation des propos de Mathilde avec les discours dans l'œuvre dans l'espace public met en lumière que les interprétations médiatiques de ses productions artistiques dépassent ses intentions et la resituent dans un cadre basé sur une différenciation genrée et hiérarchisée qui convoque ce qui relève du langage, selon des modalités qui impliquent aussi une dimension territorialisée, puisqu'il y a notamment Mireille McLaughlin et Monica Heller qui ont mis au jour combien l'idéologie de la nation intriquée à celle de la francophonie s'est vraiment arrimée à une naturalisation des rôles féminins en tant que, transmettrice de la langue, de la bonne morale, etc. etc. Et que ce fait-là continue de renseigner la francophonie canadienne contemporaine et les représentations communes sur les pratiques langagières des femmes au Québec. Et puis finalement, continue de parer le concept de québécicité qu'on a évoqué en amont d'une dimension genrée. Au cours d'une interview donnée en 2008 avec un journaliste, Mathilde explique que la controverse l'a aidée. C'est vraiment ce cadeau. Enfin, ça m'a aidée, ça m'a mis en avant, etc. Cependant, lorsque je la rencontre 3 ans après cette entrevue, le sentiment d'avoir été enfermée dans un rôle dans lequel elle ne se reconnaît pas est prégnant. Par exemple, ici, on évoque une interview qui était en ligne où on met vraiment en avant le fait qu'elle dit plein de trucs crus. Eh bien, elle me dit, je lui demande, t'étais pas contente du montage, en fait? Elle me répond, non, pas vraiment. Ils ont pris, j'ai dit plein de trucs intéressants, mais là-dessus, ils ont gardé le bout où je disais plot, qu'on peut traduire par chat en français de France. Donc, si Mathilde, elle semble avoir bénéficié effectivement d'une visibilité peut-être plus grande dans l'espace public, il semblerait que ce soit souvent à travers donc, le prisme de la controverse qui non seulement lui impose la marque de ce qui serait déviant, mais aussi implique une forme d'appropriation de ses ancrages artistiques. On retrouve ça aussi dans les propos de Dalia. Alors que ce texte traite également d'autres sujets, Dalia indique qu'elle peut parfois se sentir assignée à la thématique de la sexualité. Elle me dit, c'est comme... Ah, je me suis trompée de... Bon. C'est comme si les gens voyaient que entendaient juste que je parlais de cul. Alors que ça semble justement poser problème, qu'elle me dit. Elle me dit ça là, par exemple. Je me suis fait déjà dire à plusieurs reprises, mais tu parles juste de ça. Elle a fait référence notamment à des articles dans Le Devoir, etc. Ça, etc. C'est un peu rond dedans, etc. etc. Et en fait, ce qui se dessine. Alors, désolée, je vais essayer de revenir en arrière parce que je me suis un peu allée trop vite. Comment je peux revenir en arrière? Ah. Merde. Ah, désolée.
Non,
ok. Désolée. Voilà. Et pour affichage, en plus, je perds du temps. Voilà. Donc, ce qui se dessine, c'est que ce soit sur la question du jeu corporel ou des textes des rappeuses, il s'avère que mobiliser ce qui relève de la sexualisation de la sexualité implique spontanément d'être perçue comme pas sérieuse, ce que l'on trouve dans les propos de Greta, qui me dit que pour elle, elle perçoit qu'il y a comme un stéréotype de ce dont on devrait rapper, notamment quand on est une femme, et qu'elle, il y a beaucoup de gens qui sont venus lui dire « tu devrais rapper à propos de choses sexuelles ». Et pour elle, en fait, c'est pas qu'elle veut pas, ça l'intéresse pas, mais c'est plutôt qu'elle me dit qu'il faut, qu'elle est plus profonde, qu'elle veut montrer qu'elle va un peu plus loin que ça. Donc voilà, parler de sexualité, c'est pas sérieux. Et les discours des rappeuses donc indiquent que les logiques de l'industrie musicale et médiatique semblent alimenter une forme de visibilité qui sollicite particulièrement les rappeuses, enfin une appréhension sexualisée des rappeuses, alors que en fait ces mêmes logiques tendent simultanément à les contenir dans une forme de marginalité, puisqu'elles imposent à ces dernières des rôles qui les éloignent de la marginalité artistique au sein de ces espaces. Et puis encore une fois, ça impacte les carrières, les choix artistiques des rappeuses, mais aussi finalement la régulation genrée du discours sur la sexualité dans l'espace public. Je vais juste finir, si je peux le dire juste ça. Donc je reprends Mathilde, qui me dit en effet voilà, qu'elle s'est fait un peu reprocher qu'elle parlait juste de sexualité. Et elle me dit, les gars, eux, c'est correct. Ils peuvent juste parler de cul, puis de chat, puis de jeux vidéo, ça, c'est correct. Moi, si je parle de cul, puis de bouffe, puis de langue française, par exemple, c'est un petit peu problématique. Et on voit qu'aborder la question de la sexualité ne semble pas du tout engendrer les mêmes réactions, selon qu'elle soit prise en charge par des hommes ou par des femmes. Et donc, cette situation bien, s'insère dans un contexte traversé par des rapports sociaux de sexe qui se sanctionnent via l'interprétation et la manipulation idéologique de la société. Ainsi que nous l'a posé une collègue Guillaumin, idéologiquement, les femmes sont le sexe, tout entier sexe est utilisé dans ce sens. Les hommes, quant à eux, ne sont pas le sexe, mais en possèdent un. Et cette opposition, en fait, entre être et avoir est décisive, puisqu'ils ont un sexe. Les hommes sont à même de penser ce qui a trait à la sexualité. Et puisqu'elles sont le sexe, en fait, les femmes ne peuvent montrer ni appréciation personnelle ni mouvement propre. Et donc, les discours, vraiment, ce qu'on a pu voir des artistes, ont indiqué que leur visibilité dans l'espace public au Québec à la fin des années 2000, début des années 2010, est régulée par des logiques médiatiques qui convoquent des normes de genre, corroborées à une définition racialisée linguistique de l'appartenance québécoise. Et donc, ces logiques qui impliquent aussi la question de la réception, mais aussi celle des choix artistiques des rappeuses, comme on a pu le voir, qui sont influencées par ces logiques, et je m'excuse d'avoir dépassé. Merci.
Merci beaucoup à vous deux, parce que ces communications, j'ai pris beaucoup plaisir à les lire et à les entendre, donc merci. Comme il nous reste très peu de temps, je vais laisser la parole à la salle. Je me permets quand même, parce que j'ai préparé un peu les choses, une petite question. Enfin, Claire, moi j'avais une question. Alors, tu parles des catégories de sexe, de race et de québécicité, enfin de linguistique. Moi, j'aurais aimé savoir, par ailleurs, si la question de la classe, elle se pose, puisque le rap est souvent renvoyé à une appartenance aux classes populaires. Du coup, j'aurais aimé savoir si la question de la classe, elle est posée dans les commentaires médiatiques que tu as pu observer, et puis dans les stratégies de présentation aussi de ces rappeuses. Voilà, je laisse la parole à la salle.
Au niveau visuel et au niveau du contenu des textes. Et est-ce que tu avais l'impression aussi, ou est-ce que tu as eu l'occasion de l'étudier, je ne sais pas du tout, est-ce que ces enjeux-là se retrouvent aussi dans la manière comment de rapper au niveau de l'esthétique musicale? Alors, on pourrait imaginer qu'on attend de rappeurs hommes qu'ils aient un espèce de registre plus invectif, plus brutal, avec peut-être une manière de rapper plus saccadée, et du côté des femmes, quelque chose de plus doux, plus chanté, enfin, je ne sais pas, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose une question qui s'est posée dans ton travail?
D'autres questions?
Une question pour Madame Lesacher. C'est pour savoir si, justement, dans cet enjeu d'être écouté avant d'être regardé, il y avait des stratégies qui étaient mises en place par les rappeuses en termes de mise en scène de leur corps, que ce soit sur scène ou alors dans d'éventuels clips, et s'il y avait des tensions qui pouvaient être s'il pouvait y avoir des tensions entre les personnes qui réalisent les clips et qui leur demandent éventuellement certaines choses en termes de présentation de leur... Enfin, vous avez compris ma question. Voilà, merci.
C'est pour savoir s'il y avait si la question de l'ethnicité, de l'appartenance aussi raciale se rejouait différemment avec l'arrivée des femmes, si elles étaient considérées comme porteuses d'authenticité ou si au contraire elles étaient un peu moins représentatives des catégories qui étaient représentées par les hommes précédemment.
Alors sur la question des rapports sociaux de classe, en fait, je pense qu'ils arrivent plutôt à travers l'assignation du rap au quartier qui ont été aussi historiquement les quartiers populaires des ouvriers, puis où aussi sont arrivées ensuite les vagues d'immigration. Donc ils sont associés à on appelle ça les ghettos là-bas, genre Saint-Michel par exemple. Et du coup, ce truc de la classe, elle arrive par là. Et puis on a vraiment, quand je disais ce récit du hip-hop à la fin des années 2000 qui est associé à la drogue, à l'illégalité, etc., il s'est aussi associé à ces quartiers qui sont dits les quartiers populaires. Et il y a notamment aussi, par exemple, les interprétations journalistiques, elles sont assez stéréotypées. Enfin, même des fois par rapport à la France, on a l'impression que c'est encore pire. Enfin, je sais pas. Enfin, il y avait notamment deux artistes dont l'album a été présenté au cours d'une émission assez écoutée, regardée. Et la journaliste a dit « j'ai adoré cet album et tout ». Par contre, j'étais un peu déçue parce que moi, je croyais qu'elle venait de Harlem. Mais en fait, non, c'est des filles qui ont été à l'école du Plateau, au centre-ville de Montréal, etc. Donc, comme si finalement, elle a été... en gros, il y a tout un fantasme qui est créé un peu autour de... c'est des gens qui viennent de tel endroit, qui ont telles origines, etc. Et s'ils n'en sont pas, finalement, eh ben un peu ce truc un peu mystifié ne marche plus. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est justement après, enfin, c'est arrivé, c'est des groupes qui ont commencé à émerger quand j'étais à Montréal, mais qui ont vraiment plutôt explosé juste après, et en fait qui étaient des groupes justement qui se revendiquent québécois, voire même sont souverainistes, mais viennent des banlieues justement cossues. Et ont des textes justement qui décrivent la réalité, enfin le quotidien dans les banlieues cossues de Montréal, et qui proposent un rap plurilingue, etc. Et en fait, là, on a vraiment vu une tension qui a été débattue dans les médias à coups d'édito sur édito, etc. C'était jusque-là, en fait, le rap d'expression francophone plurilingue, bon, c'était justement le rap des populations non blanches, descendants d'immigrés qui venaient des ghettos, etc. Du coup, voilà, c'était vu comme ça. Et en fait, là, la question du plurilinguisme et de défendre une identité québécoise, mais qui n'est pas du tout celle qui est défendue dans les médias habituellement, qui est plutôt homogène, etc., eh bien, c'est là vraiment que le rap a fait grincer des dents, en fait. C'est quand... quand les personnes non, qui n'étaient pas minoritaires, assignées au groupe minoritaire, en fait, ont pris en charge, de cette manière le rap. Donc, ouais, c'est la classe intervient plutôt à ce moment-là, quoi, et toujours intriquée vraiment au territoire. Sur la question des esthétiques, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment. Enfin, il y a pas une esthétique genrée, en fait. Vraiment pas. Elle s'inscrit plutôt dans des styles, la question du genre intervient pas là-dedans. Si elle intervient, c'est peut-être plus justement les rappeuses qui vont avoir plutôt s'inscrire dans un rap, justement pas trop chanté, etc. En gros, dire que vu que je suis une fille, faut peut-être que j'en montre encore plus que je suis teuf parce que justement, vu que je suis une fille. C'est plus ça, mais en fait, sinon, il n'y a aucun truc. Parce que même, il y a des rappeuses qui sont aussi chanteuses, mais au Québec, il y a aussi pas mal de rappeurs qui chantent aussi. Du coup, c'est pas si marquant que ça, en tout cas. Et sur la question de la scène, en fait, le truc... qui est mis en avant concernant la scène, c'est être à l'aise en fait sur scène, en fait pouvoir vraiment habiter la scène. Du coup, beaucoup me disent que justement, par exemple, elles vont pas mettre de talons, c'est clair, sur scène, etc., alors qu'elles vont en mettre dans d'autres espaces, mais que vraiment l'important au niveau de la scène. Alors souvent elles sont très stylées, beaucoup aiment bien la mode, etc., mais genre l'idée c'est de pouvoir vraiment habiter la scène dans son entier, du coup, être à l'aise. Voilà. Et au niveau des clips, c'est pas trop quelque chose qui a été dit. C'est plutôt au niveau des interviews journalistiques où on a senti des fois une injonction. Par exemple, une rappeuse qui me disait que des fois, on lui a demandé si elle voulait pas aller faire, comment dire, l'interview en maillot de bain, etc. Bon. Et mais dans le niveau des clips, pas tant que ça, pardon, mais c'est sans doute aussi lié au fait que ça se fait par des raisons informelles. En fait, c'est des personnes avec qui... Enfin, c'est un pote à elle qui fait des clips, etc., ou une pote. Donc, du coup, y a moins d'injonctions, vu que c'est dans des réseaux d'amis, enfin, de potes, ou en tout cas de collégialité, on va dire. J'espère que j'ai répondu à vos questions.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup.